Bonjour, je suis Guy Berthiaume, président directeur général de la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de recevoir aujourd'hui Luc Brisson et Georges Leroux. Pour moi, il est tout à fait approprié que cette rencontre ait lieu ici, dans une bibliothèque, puisque c'est dans une bibliothèque que j'ai rencontré Luc Brisson, puisque nous avons travaillé ensemble à la Bibliothèque nationale de France à l'époque de la rue de Richelieu. Ça trahit mon âge, mais sûrement pas le sien. Et donc, c'est un plaisir que je m'étais gardé dès mon entrée en fonction ici, celui d'accueillir Luc, qui, à mon point de vue, répond tout à fait à l'adage « Nul n'est prophète en son pays ». Luc, vous allez le découvrir, est un des très grands, sinon le meilleur spécialiste de Platon au monde. Et il est natif du Québec. Et c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas assez ici. Il sera en conversation avec Georges Leroux. Je n'ai pas eu la prétention de faire avec lui les conversations que je fais avec d'autres personnalités. J'ai laissé à Georges ce soin-là. Georges, que vous connaissez bien, qui est prof émérite à l'UQAM et petit commercial, qui est en nomination pour les prix littéraires du gouverneur général pour son ouvrage « Vendereur, essai sur le voyage d'hiver » de Franz Schubert. Donc, tous nos voeux t'accompagnent, Georges, et je vous laisse donc en compagnie de Georges Leroux et de Luc Brisson.
Alors, bienvenue à tous. Très heureux d'être ici avec vous pour rencontrer Luc pour cet entretien. Alors, la formule est bien sûr un peu limitée dans le temps, puisque en gros, on aura un entretien d'une heure et il y aura de la place pour que vous puissiez adresser des questions à Luc Brisson. Alors, d'abord, je voudrais, avant d'ouvrir l'entretien avec lui, remercier bien sûr Guy Berthiaume qui a été modeste et n'a pas dit à quel point lui-même s'est engagé dans la période de formation qui nous fut commune, car nous étions ensemble, Guy, Luc et moi, à Paris, dans le début des années 70. Et une des premières publications que j'ai faites est un compte-rendu de la thèse publiée de Guy Berthiaume, qui se trouve dans les bibliothèques, les bonnes bibliothèques de Montréal, une thèse sur le sacrifice dans la religion grecque. Très beau travail. Donc, merci à Guy Berthiaume, merci à l'équipe de BANQ d'accueillir la pensée grecque. Merci surtout à Luc de nous donner donc, un temps précieux qui va nous permettre de découvrir son œuvre et sa pensée, son trajet. Alors, au moment où on a exploré l'idée de faire cet entretien, on s'est dit sur quoi est-ce qu'on pourrait le faire porter. Si vous ouvrez le site Internet du CNRS où est recueilli le curriculum vitae de Luc Brisson, bonne chance. La liste de ses travaux est très impressionnante, très longue, très riche. On y trouve autant un travail de traducteur chevronné qui nous a donné des choses dont on va parler dans un instant, mais aussi une œuvre exégétique, herméneutique très forte depuis son premier livre qui date de 1974 jusqu'à maintenant. Donc, il y a une œuvre très importante. Et en fait, on a eu l'idée de se concentrer sur ce qui gravite autour d'un dialogue de Platon, le Timée, un des derniers dialogues, qui a été le sujet de la thèse de Luc, mais qui n'a cessé de l'accompagner par la suite. Donc, on va essayer de graviter autour de ça. On va circuler, bien sûr, dans son travail pour lui permettre de nous en parler. Alors, je me tourne vers toi, Luc. Il serait un peu artificiel de qu'on se vous voit. On le fait parfois à la radio, mais ici, ce serait exagéré. Je pense que la première question qui serait intéressante d'aborder avec toi, c'est, on a vu par les entretiens publiés que tu as donnés à notre ami, dont je salue la présence, Louis-André Dorion. Louis-André a publié des entretiens autobiographiques avec Luc Brisson chez l'éditeur Liber, où Luc est revenu sur sa formation. On a vu donc par ces entretiens que très rapidement, sa détermination à s'engager dans la philosophie grecque lors de ses études à la Faculté de philosophie de l'Université de Montréal. Cette détermination-là, donc, s'est fixée très rapidement. Alors, la première question peut-être qu'on pourrait aborder, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans cette recherche et en particulier à choisir le timé comme sujet de thèse?
C'est une longue histoire. Et donc, moi, je suis né en 46 et j'appartiens à l'ancien Québec, celui d'avant 1960. À l'âge de 11 ans, je suis allé au séminaire et c'était en 57. Et à 11 ans et demi, j'ai commencé à faire du grec et du latin. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été incroyablement intéressé par les textes grecs et latins, des textes qui appartenaient à un passé très éloigné, mais qui, moi, me parlaient au présent. Et je me suis surtout intéressé à la langue grecque et j'ai eu une espèce de révélation à un moment donné en traduisant Platon. Je trouve que Platon est un auteur littéraire d'une incroyable qualité et notamment Le Banquet et Le Phèdre m'ont toujours paru des chefs-d'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, dans un premier moment, je me suis intéressé à Platon. Mais par la suite, j'ai terminé mon cours classique et j'ai fait philo 1, philo 2. À ce moment-là, donc, la philosophie au Québec était orienté exclusivement vers le thomisme, et donc vers Aristote. Et j'ai essayé de réagir contre ce courant, donc en m'intéressant à Platon. Et à ce moment-là, chez Platon, m'ont intéressé les dialogues de la fin, c'est-à-dire les dialogues qui étaient beaucoup plus philosophiques, entre guillemets, que les premiers dialogues qui sont des œuvres littéraires remarquables et qui ont fait l'objet ces dernières années d'interprétations philosophiques. Louis-André Dorion a travaillé sur les premiers dialogues et maintenant, donc, on reconnaît la charge philosophique des premiers dialogues. Mais à l'époque, Platon philosophe, c'était les derniers dialogues de Platon, c'est-à-dire essentiellement le sophiste, le théétète, le timée et les lois, avec bien évidemment la République qui était l'arrière-plan de toutes ces recherches. Et j'ai commencé par m'intéresser à l'Université de Montréal, sous la direction de M. Descaries d'ailleurs, qui était le premier directeur laïque du département de philosophie, aux sophistes de Platon. Parce que j'estimais que c'est là que se trouvait la structure philosophique de ce qu'on peut appeler la doctrine platonicienne. Et donc, sous la direction de M. Descaries, j'ai fait ma maîtrise sur le sophiste de Platon avec ses grands genres que sont l'être, le repos, le mouvement, le même et l'autre. Et ces grands genres m'ont profondément intéressé, et j'ai essayé de retrouver cette structure dans une œuvre cosmologique, la première qui existe dans l'histoire de la philosophie, c'est le Timée de Platon. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis parti en France, j'ai voulu travailler sur le Timée de Platon.
Et vous êtes, tu t'es tout de suite inscrit chez Madame Ramnou, qui était une excellente spécialiste des présocratiques, donc qui avait cette connaissance du terreau quasi culturel et linguistique, la philosophie. C'est quelque chose qui a eu une grande importance.
Oui. Mais même si, à l'époque, je suis arrivé à Nanterre en 1968, en octobre 68, et c'était encore très très chaud. Et Madame Ramnou m'a demandé de ne pas venir à l'université.
Ah bon?
Parce qu'il y avait toujours des bagarres et que les CRS auraient pu m'embarquer et me renvoyer au Québec.
Ah bon?
Et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers l'école pratique des hautes études, vers les cours de Vernon, Vidal-Naquet et de Tienne.
Oui.
Et donc, tout en continuant de faire ma thèse de doctorat sur le Timée de Platon, donc en philosophie, je suis allé donc chez Vernon, Vidal-Naquet et de Tienne, et qui ont beaucoup, beaucoup compté pour moi.
Oui.
Et notamment dans le Timée de Platon, ils m'ont orienté vers tout un aspect du Timée qui avait été négligé, le fait que la divinité qui fabrique le monde travaille manuellement. Donc c'est quelqu'un qui est un métallurgiste, un menuisier, quelqu'un qui tresse l'osier, quelqu'un qui modèle de l'acier.
Oui.
Et donc cette présence chez Vernon, Vidal-Naquet et de Tienne ont complètement changé ma façon de voir le monde grec.
Oui.
Parce que Vernon, qui était un philosophe, avait été formé aussi en psychologie sociale par Meyerson, et ses convictions marxistes l'amenaient à s'intéresser beaucoup à l'aspect social de la Grèce ancienne, et justement le travail du Démiurge l'intéressait beaucoup parce que c'était la première cosmologie en Grèce ancienne qui remplaçait un modèle sexuel, c'est-à-dire que si vous prenez Hésiode, les divinités s'échelonnent tout simplement parce que tel dieu fait tel enfant à telle déesse, etc., etc. Et donc le Timée de Platon était la première cosmologie qui utilisait un modèle artisanal, un modèle de travail manuel.
Je pense que c'est très important ce que tu dis là, parce que notre génération, tu as rendu hommage à Vianney Descaries, je crois qu'il faut le dire, le professeur Descaries a été le premier professeur de philosophie grecque laïque au Québec.
Oui. Et puis en plus, il était très généreux parce que comme Louis-André Dorion, c'est un aristotélicien et il acceptait que quelqu'un travaille sur Platon.
Oui, ce qui était déjà quelque chose. Et donc, il y avait un pas de plus. Notre génération était formée en fait dans le livre de Léon Robin, c'est-à-dire dans une, on pourrait dire, une synthèse assez métaphysique de Platon, alors que les chercheurs que tu viens de mentionner, Vernon, on était ensemble chez Marcel Detienne, tu te souviens, et Guy Bertium aussi. Pierre Vidal-Naquet, qui a été ton interlocuteur, avec qui tu as été en débat. Je me souviens d'un débat de toi fameux à Paris sur la question du temps dans le dialogue, le politique. Et tous ces chercheurs-là introduisaient une toute autre lecture de Platon.
Une dimension, tout à fait. Et justement, par exemple, tu parlais du livre de Guy Bertium. C'est un livre très intéressant parce que c'est un livre sur le Magaïros.
Oui.
Et en grec, Magaïros, c'est un boucher. Mais c'est un boucher sacrificateur, parce que le sacrifice en Grèce ancienne impliquait l'abattage de bœufs, et les chairs étaient découpées par un magistrat qui les distribuait à l'assemblée. Et c'était une nouvelle façon de voir la religion grecque aussi, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de Marcel Detienne, on voyait la religion grecque non seulement d'un côté purement théologique ou religieux, mais d'un point de vue social.
Oui.
C'est-à-dire que le sacrifice était un acte où la communauté se retrouvait et partageaient la viande des victimes. Oui. Et c'est pour ça que le Magueira, c'était tellement important. Oui. Et le Magueira, c'est cité dans le Phèdre de Platon comme modèle du dialecticien.
Oui.
Il faut bien découper la bête au bon endroit.
Bon. Une chose qui frappe dans cette première partie de ton travail, bien sûr, c'est une thèse, comment dire, avec une grande amplitude, un projet de lecture de Platon qui est considérable, mais une chose qui est importante et qui a été signalée par toutes les critiques, qui furent nombreuses, des critiques positives, bien sûr, c'est le travail que tu as fait sur la tradition du Timée. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ces textes-là, les textes de Platon, n'ont pas tous eu le même sort critique en Occident. La République, par exemple, qui est un dialogue essentiel, n'a pas connu le tiers du quart de la réception qu'a connu le Timée. C'est-à-dire, les commentaires de la République sont très pauvres et les traductions de la République sont très pauvres au Moyen-Âge latin par comparaison avec la tradition du Timée. Et Luc, dans sa thèse, a eu une idée qui est une idée formidable. Il est allé regarder pour la structure ontologique, c'est-à-dire comment se distribuent les principes premiers de la pensée de Platon dans le Timée, comment les lecteurs de la tradition grecque et latine, et ça remonte donc dès les premiers lecteurs du Timée jusqu'à la tradition de Chalcidius, ont effectivement systématisé ce modèle, au point qu'une des conclusions de ta thèse, c'est de dire que finalement, le Timée institue consacre un modèle de la pensée de Platon qui est un modèle fait d'invariants. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, on était tous influencés par ce langage des invariants. Le structuralisme était très important. La pensée de Claude Lévi-Strauss était centrale. Vidal-Naquet, De Tienne, tous ces gens-là discutaient avec Lévi-Strauss. Et l'idée qu'on puisse lire un texte de philosophie avec une pensée des invariants était importante. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, avec le temps, t'apparaît tenir la route encore?
Je crois, mais même si, bien évidemment, après 40 ans, les choses ont beaucoup évolué.
Oui.
Et mon hypothèse s'est décantée. Mais je maintiens cette façon de voir le Timée et la pensée de Platon en général. En fait, ce qui caractérise Platon, et pour Aristote c'est un peu différent, mais ce qui caractérise Platon, c'est que donc Platon a vécu de 428 à 348 avant Jésus-Christ, et que dès la vie de Platon, il y a eu une école, l'Académie, où on lisait et discutait les dialogues de Platon. Et Aristote, par exemple, est quelqu'un qui a discuté et critiqué très durement les dialogues de Platon, mais c'était dans le cadre d'une école. Et cette école s'est maintenue tout au long de l'Antiquité jusqu'en 528 après Jésus-Christ, donc pratiquement 1000 ans. Et ce qui caractérise les moments de l'interprétation platonicienne, c'est les dialogues qui avait la priorité. Or, le Timée a eu la priorité dès l'Académie, dès l'époque de Platon, tout simplement parce que le Timée était, en gros, le point d'ancrage de la philosophie platonicienne. C'est-à-dire que, dans le Timée, Platon essayait d'expliquer comment les choses sensibles qui ne sont que des images de la réalité véritable, présentaient une similitude par rapport aux réalités véritables. Et donc, dans le Timée, on explique comment une divinité, le démiurge, transforme le hasard pur à l'aide des mathématiques pour faire que le monde dans lequel nous vivons est assez de régularité et de permanence puisqu'on peut s'en parler, le penser et puis y agir surtout. Et donc, le Timée était, le point d'ancrage de la philosophie de Platon pour cette raison-là. Donc, le Timée a été le dialogue le plus lu et commenté dans l'ancienne académie. Après un moment, les académiciens se sont orientés vers une critique des stoïciens, et donc l'académie est devenue beaucoup plus probabilisme sceptique. Et à l'époque impériale, aux alentours de la naissance du Christ, là on est revenu au Timée. Et c'est ce que le mouvement que les historiens allemands ont appelé le moyen platonisme. Et à ce moment-là, on a eu une nouvelle interprétation du Timée de Platon qui donnait la priorité aux questions de l'âme, surtout, et de l'organisation de la matière. Deux siècles plus tard, avec Plotin, qui lui vit de 204 à 270, le Timée est remplacé par le Parménide, mais reste toujours à l'arrière-plan. Donc, l'intérêt du Timée, c'est que pendant cette période de 1000 ans, il a fait l'objet d'interprétations différentes. Et ces interprétations différentes utilisent toujours les mêmes principes, les mêmes invariants, c'est-à-dire les formes, le démiurge, l'âme et la matière, mais leur donne un rôle et un statut qui est chaque fois différent. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir justement ce jeu des principes, ce jeu qui modifie le rôle et le statut des principes. Et je pense que on trouve là quelque chose de vraiment essentiel, oui, pour comprendre non seulement la pensée de Platon, mais l'interprétation platonicienne.
Parce que nous, j'ai apporté quelques images pour c'est pas un geste platonicien, mais on va regarder quelques images. Donc la première est ta thèse. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as choisi, je me souviens, on en avait discuté, de l'illustrer par une sphère armillaire, c'est-à-dire un de ces instruments astronomiques qui ont été très importants, bien sûr, surtout à la Renaissance, avec les débuts de la navigation et tout, mais qui ont été tributaires, toute cette instrumentation astronomique a été tributaire d'un aspect du Timée qui est très important, qui est le calcul des distances, qui va avoir une suite chez Copernic et Kepler, dans le mouvement des astres. Mmh. Et donc, on peut en regarder quelques autres, si tu permets.
Oui.
Je me souviens plus ce qu'on fait, là, voilà. Non, ça, c'est pas ça. Ça doit être ça, ici. J'ai besoin d'aide, là. La flèche en bas à gauche. Avec la souris? Attends un peu. Voilà. Merci. Alors, ici, nous avons un livre de Luc, Inventer l'univers, qu'on va discuter dans un instant, qui résulte de sa collaboration avec un physicien, collègue à toi, Walter Meyerstein, où nous avons, on va en parler dans un instant, une discussion comparative entre le modèle grec du monde et sa structure axiomatique, c'est-à-dire les principes non démontrables sur lesquels repose l'ontologie, la cosmologie du Timée de Platon, en comparaison avec le modèle standard du Big Bang, c'est-à-dire la physique contemporaine. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie déjà ce que je dois faire. Voilà. Alors, j'ai mis cette petite image qui est émouvante pour tous ceux qui étudient Platon. C'est la première édition moderne, édition princeps dans notre langue, à nous, philologues, c'est-à-dire toute première, des dialogues de Platon qui a été faite par un humaniste européen qui s'appelle Henri Étienne. On l'appelle de son nom latin Stéphanus. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu de grec ou qui lisent un peu cela, bien sûr, c'est l'ouverture du Timée. Mais ce qui est important, c'est de savoir que notre annotation de nos citations de l'œuvre platonicienne dépendent toujours de cette édition. Nous sommes à la page 17 et nous voyons la colonne A. Alors, voilà pour un petit hommage à notre ancêtre philologue, Henri Étienne. Alors, voici un très beau manuscrit du Timée, qui est un manuscrit de la tradition, latine de Chalcidius, une traduction qui a été essentielle, puisque c'est le point de départ de la transmission du Timée à l'Occident latin, qui évidemment ne lisait plus le grec déjà, où on voit l'intérêt formidable de Platon et de son copiste ici pour les structures géométriques. Alors ça, évidemment, c'est majeur. C'est le plus beau manuscrit du Timée qui existe dans l'histoire manuscrite de sa tradition. C'est le manuscrit Digby qui est à la Bibliothèque Bodléienne de Londres et qui, donc, figure sur l'invitation que vous avez reçue. Je vous signale que ce manuscrit est en ligne sur le site de la Bodléienne. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'autres illustrations merveilleuses. Je ne te demanderai pas de commenter, Luc. Là. Luc est aussi quelqu'un qui, à partir de son travail sur le Timée, en même temps, en fait, s'est passionné pour les mythes. La culture grecque du mythe qui bénéficiait des travaux de Vernant et d'Étienne l'a conduit à se poser la question: qu'est-ce qu'un mythe? Comment les premiers philosophes ont considéré ce matériau homérique, hésiodique, comment les mythes ont été transmis. Et il a fait un livre qui est extraordinaire, selon moi un des livres les plus importants, c'est donc Platon, les mots et les mythes. Alors, ce livre comporte à la fois la doctrine platonicienne du mythe, c'est-à-dire comment Platon évalue les mythes, et d'autre part, comment nous comprenons évidemment ce qui se joue dans ce rapport de la philosophie au mythe. Je rends hommage ici à ton éditeur, à notre éditeur, puisque tu m'as fait l'honneur de m'intégrer dans ta collection. C'est une chance que tu m'as donnée dans ma vie, pour laquelle je te suis reconnaissant toujours. C'est évidemment le fait que Flammarion et sa merveilleuse collection GF qui ouvre le répertoire de la philosophie grecque à nos étudiants. C'est formidable, ce sont des éditions annotées, on va en parler dans un instant. Donc ça, c'est un des nombreux textes que tu as traduits pour cette collection. Quand cette collection a été terminée, j'entends la traduction complète de Platon pour GF, Luc a assemblé, c'est un travail magistral, majeur, toute l'œuvre de Platon dans un seul volume, publié aussi chez Flammarion, et dont voici donc la couverture. Derrière, vous reconnaissez le seul buste authentique que nous avons de la tête de Platon, un très beau marbre qui est à Athènes. Il a fait aussi une anthologie des textes où Platon lui-même écrit de manière mythologique, parce que Platon n'a pas seulement discuté les mythes des autres, il en a créé de toutes pièces. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les résumer tous, mais prenez par exemple le mythe qui clôture la République, le mythe pamphylien de la résurrection des morts et de l'attribution des destins. Ça, c'est un mythe qui est profondément platonicien. On ne le trouve pas dans la mythologie avant lui. Après Platon, et nous en avons bientôt fini des images, Luc s'est intéressé à Plotin. Combien ça t'a pris de temps?
10 ans.
10 ans.
Bon, ça n'était pas moi, c'est un groupe.
Oui, mais Luc, excuse-moi, là, mais tu es trop modeste. Moi, je sais le rôle que tu as joué dans l'animation de ce groupe-là. Il a traduit et annoté les 54 traités du principal, on pourrait dire, platonicien occidental, donc le philosophe d'origine égyptienne, Plotin, qui enseignait à Rome au IIIe siècle. Alors, c'est un ouvrage qui est majeur, et donc on en a fini des images, et on va revenir à notre entretien. Alors, passons, si tu veux, à la question de la comparaison des modèles du monde. Quand on a lu ton livre avec Meyerstein, ta traduction n'était pas parue à ce moment-là, elle va paraître 2 ans plus tard. Tu dis en gros avec Meyerstein, la cosmologie antique et la cosmologie contemporaine, c'est la même chose, pas les mêmes propositions bien sûr, mais c'est le même modèle, c'est-à-dire ça repose sur des indémontrables. Il y a vraiment des indémontrables. Alors, d'où vient cette idée? Est-ce que c'est le physicien lui-même qui t'a dit, ben nous on fait pas différent de ce que faisait Platon? Comment ça s'est produit cette rencontre?
C'est une rencontre qui s'est faite autour du Timée de Platon. Donc, Meyerstein avait lu mon livre sur le Timée et lui, c'était quelqu'un qui était passionné par toutes les cosmologies, tous les modèles de la cosmologie moderne. Et donc, ce qui l'intéressait dans le Timée et ce qui l'intéresse dans la théorie du Big Bang, c'était justement ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est la question du mythe. Parce que en fait, je me suis intéressé au mythe chez Platon pour une raison très simple, c'est que le Timée est qualifié par Platon lui-même, de mythe, eikos mythos, mythe vraisemblable ou mythe portant sur les choses sensibles. Et on s'aperçoit que même actuellement, les différentes cosmologies vont jusqu'à un certain point du côté des mythes. Donc, il n'est pas question pour moi de dire, comme on le disait quand on faisait de la philosophie thomiste, que les doctrines physiques actuelles ne sont pas plus valables que les que ce qu'Aristote ou Thomas d'Aquin disaient dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Le problème n'est vraiment pas là. Je veux dire, les cosmologies modernes utilisent une mathématique absolument extraordinaire et ont des moyens d'observation et de vérification qui sont incomparables. La grande difficulté pour le Timée de Platon, c'est qu'il n'y a pas d'observation. Très peu d'observations et pratiquement pas de vérification. Platon refuse toute vérification. Mais pourquoi Platon qualifie-t-il le Timée de mythe et pourquoi peut-on dire que, d'un certain point de vue, des théories comme le Big Bang peuvent être considérées comme des mythes? Le problème, c'est que le problème, c'est celui de la cosmologie. Que beaucoup de philosophes modernes ont refusé, par exemple Auguste Comte refusait absolument de parler de cosmologie. Chez Kant, c'était assez compliqué. Mais le problème de la cosmologie est le suivant, c'est-à-dire que quand on veut faire une cosmologie, on veut donner une explication tous les phénomènes physiques dans leur ensemble. Pas une explication de chaque phénomène physique en particulier, mais donner une explication des phénomènes physiques dans leur ensemble. Or, la physique, et ça on retrouve dès Platon et Aristote, le début de la physique d'Aristote porte là-dessus, la physique, c'est une science qui s'intéresse aux êtres en devenir, aux êtres qui sont dans le temps. Donc, si on essaie de donner une explication de l'ensemble de ces êtres qui sont dans le temps, on est ramené immédiatement à la question de l'origine. Et la question de l'origine, c'est une question qui est redoutable, parce qu'à l'origine, il n'y avait personne. Et donc, parler de l'origine, c'est parler de phénomènes qui ne sont pas des phénomènes observables. Donc, si on veut parler de l'origine, on est obligé de se fabriquer un modèle qui nous permette d'expliquer la suite, d'expliquer ce que l'on est doit être reporté vers l'origine. Et c'est en ce sens-là qu'on retrouve cette définition du mythe chez Platon, parce que, encore une fois, c'est très intéressant, c'est que le terme mythe en français vient, enfin, il ne vient pas, c'est une translittération du terme mythos en grec. Et en grec, mythos, ça signifiait la vie, la parole, jusqu'à Platon. Et Platon va donner un sens tout à fait particulier à mythos pour, en disant que mythos, c'est un discours dont on ne peut dire ni qu'il est vrai, ni qu'il est faux. Et pour reprendre la formule d'Aragon que j'aime beaucoup, c'est un mentir vrai. Et sur beaucoup de points, Platon en était conscient, on ne peut utiliser que ce type de discours qui n'est ni vrai ni faux. Et notamment le discours concernant l'origine. Donc, si on veut faire la cosmologie, on est obligé de se fabriquer un modèle qui, en tant que tel, n'est pas observable. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de se demander si le monde dans lequel on vit permet de considérer ce modèle, non pas comme vrai, parce que c'est impossible, mais comme vraisemblable. Et je pense que, bon, en ce qui concerne le timin, c'est tout à fait le cas. En ce qui concerne les cosmologies modernes, c'est aussi le cas, me semble-t-il, parce que donc une théorie comme celle du Big Bang, une explosion primordiale, n'est fondée que sur trois observations seulement sur trois observations indiscutables, et chaque fois que on essaie de faire des vérifications sur cette origine, et on le fait notamment au CERN, à Genève, et chaque fois qu'on essaie de faire des vérifications, on essaie de vérifier que le modèle est valable pour 3 minutes après l'explosion, puis 1 minute, etc., etc., chaque fois qu'on remonte plus loin, on se heurte à des difficultés gigantesques. Et donc, il y a toujours, y compris pour les philosophies, pour les cosmologies modernes, cette idée que le modèle que l'on construit pour décrire l'origine, c'est un modèle qui ne pourra jamais être déclaré vrai.
La similitude est donc entre la cosmologie donc platonicienne du Timée et la cosmologie contemporaine, d'abord, appelons-la une similitude formelle, c'est-à-dire oui. Que c'est le recours à un modèle. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites importantes qui sont des limites internes? Par exemple, je ne sais pas, pour Platon, le monde était éternel. Mmh. La question de l'éternité du monde, les formes intelligibles et ainsi de suite, le monde en devenir, lui, en dépend, et il y a le mythe s'applique principalement à exposer comment ce monde supérieur des formes intelligibles a une influence sur l'avènement et le devenir. Donc, c'est là que le démiurge entre en action, mais aussi un concept qui est très étonnant pour nous, qui est le concept de l'âme du monde, puisque pour Platon, le monde est un être vivant. Alors, est-ce que ça, évidemment, ce sont des éléments, appelons-les mythologiques, de la cosmologie platonicienne qui ne sont pas transférables dans une cosmologie contemporaine. Mm-hmm. Comment comprendre? Parce que, bon, ce qui est frappant pour nous qui sommes chrétiens de culture, c'est-à-dire que pour qui le modèle de la création a déterminé notre conception du monde depuis toujours, c'est-à-dire que c'est parce qu'un Dieu l'a voulu. Moi, je me souviens d'un cours de philosophie, je rends hommage ici à ce professeur qui m'avait terrifié, le père Landry, je ne sais pas si tu l'as connu, c'était un dominicain, et on lisait un article de la Somme de saint Thomas. Et c'était un après-midi, vraiment, j'en ai gardé un souvenir terrible. Il avait lu cet article sur la nécessité que le monde soit créé par un Dieu unique. Et saint Thomas dit, dans cet article de la Somme, que si Dieu exerçait la même volonté de faire advenir qu'il avait exercé au point de départ, à faire cesser, c'est-à-dire à faire retourner au néant, eh bien, il le citait en latin, « In instanti omnia revertuntur ». Dans l'instant, toutes les choses retourneraient au néant. Je suis rentré chez moi, je me disais, ça peut arriver demain. Il y avait cette... et ce modèle, entre guillemets, créationniste, a beaucoup... mésinterpréter le démiurge du Timée, puisqu'ils l'ont les commentaires latins, l'école de Chartres et tout, et ont utilisé beaucoup ce modèle-là. Donc, on peut dire que la physique contemporaine, sa première leçon, c'est précisément de mettre à la marge ces éléments mythologiques. C'est pas assimilable.
Oui. Non. Ce que je voulais dire, c'est que la comparaison qu'on a faite entre les cosmologies modernes et la cosmologie du Timée, est une comparaison qui se limitait à la structure de la pensée quand on essaie de décrire l'origine. Donc, on a parlé de mythe et pas de mythologie.
Oui.
Et donc, chez Platon, et c'est la grande différence, donc chez Platon, on n'a pas les mathématiques modernes, parce que les limites d'une cosmologie, c'est la limite que rencontrent les mathématiques qu'il utilise. Et Platon, sa mathématique, c'est une mathématique de cours secondaire maximum, je veux dire. Alors que maintenant, on a des mathématiques fabuleuses. On a des instruments d'observation, les télescopes et puis les satellites, etc. Et on a moyen de vérification gigantesque, notamment le CERN de Genève qui coûte plusieurs milliards de dollars. Donc, d'un point de vue réel, les différences sont gigantesques, il n'est pas question de les nier. Du point de vue de la structure mentale, là, je pense qu'on arrive à des questions qui sont similaires, c'est-à-dire celles de l'origine. Platon, c'est un auteur du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait en gros 2500 ans. Et Platon, et c'est ça qui est extraordinaire dans le Timée de Platon. Platon, c'est quelqu'un qui continue la tradition grecque des théogonies, notamment celle d'Hésiode, mais qui réinterprète cette tradition grecque en la faisant converger vers un modèle mathématique. On retrouve dans le Timée de Platon des éléments très modernes, c'est-à-dire l'utilisation des mathématiques, et des éléments très anciens, c'est-à-dire cette description de la fabrication du monde qui fait intervenir des éléments mythologiques. Et le problème fondamental pour Platon, c'est toujours le même, c'est-à-dire que pour Platon, les choses sensibles ne sont que les images des formes. Donc, dans la mesure où les choses sensibles sont des images, des formes, il faut qu'elles soient à la fois différentes, les réalités véritables, et semblables. Donc, elles sont différentes parce que elles comportent de la matière, qui fait que les choses sensibles sont séparées les unes des autres et ne sont pas pénétrables les unes par les autres. Mais elles doivent être semblables, et là, elles sont semblables à cause de l'intervention d'une divinité que Platon appelle le démiurge et qu'Aristote va critiquer de façon radicale.
Très sévère, oui. Mais dis-moi, quand tu analyses les axiomes du Timée et que tu les compares aux axiomes de la cosmologie contemporaine, hein, ça c'est ce qu'il y a dans ce livre-là, tu dis le premier axiome de la cosmologie du Timée, c'est « il faut deux mondes ». Mm-hmm. Il faut deux mondes séparés. Mm-hmm. Parce que ce monde-ci ne s'explique pas par lui-même.
Oui.
Il en faut un autre qu'on doit postuler, pour lequel, bien sûr, Platon prévoit un accès métaphysique qui est le cœur de sa philosophie. Mm-hmm. Mais est-ce qu'une telle séparation des mondes est nécessaire dans la cosmologie contemporaine?
Non. Et donc, justement, c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est-à-dire que le groupe d'axiomes sur lequel est fondé le Timée et le groupe d'axiomes sur lequel est fondé les cosmologies modernes sont très différents. Notre but, c'était donc, d'une part, de dire, dans les deux cas, on fabrique un modèle pour expliquer quelque chose dont on ne saura jamais rien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que notre modèle est fondé sur les axiomes. Les axiomes, ce sont des propositions qui ne sont pas
démontrables.
Et donc, c'est ça qu'on voulait. Et donc, effectivement, si tu prends dans le livre Inventer l'univers, les axiomes des cosmologies modernes sont des axiomes fondés sur une géométrie. Et ça n'a les aspects philosophiques ou mythologiques n'y apparaissent absolument pas.
Oui. Il y a une grande différence aussi, c'est Platon ne connaît que le concept de matière, alors que nous avons un concept d'énergie.
Oui, et c'est la raison, c'est ce qui explique l'apparition de l'âme du monde.
Oui.
C'est-à-dire que le problème pour Platon, donc le premier élément mythologique, c'est le démiurge.
Oui.
C'est-à-dire que dans la mesure où on a cette séparation, ces deux mondes, il doit y avoir un médiateur.
Oui.
Et le médiateur, c'est une divinité qui met des mathématiques dans la nécessité.
Oui.
Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'âme du monde. On se dit, mais c'est complètement fou dans le Timée de Platon, le monde est un vivant, il a non seulement un corps, mais une âme. Mais le problème pour Platon, c'était d'expliquer pourquoi dans notre monde, il y a du mouvement. Mais quand on n'a pas de notion de force, on n'a pas de notion d'énergie, on n'a pas de notion d'accélération, on n'a pas de notion de gravitation, la seule façon de rendre compte du mouvement dans notre monde, c'est d'assimiler notre monde à un être vivant, à un animal. Et donc, effectivement, dans le Timée de Platon, le monde est un être vivant parce qu'on a besoin de mouvement et que ce mouvement qui est autonome ne peut venir que d'une âme. Donc, effectivement, quand on a commencé à développer ces concepts de force, de gravitation, on n'avait plus besoin d'expliquer le mouvement par l'intermédiaire d'une âme du monde. Mais cette hypothèse qui nous paraît très étrange s'explique assez facilement par le manque de notions physiques.
Il y a quelque chose d'assez audacieux chez Platon, c'est l'idée que l'âme se meut elle-même, c'est-à-dire cette question de l'automotricité, c'est quelque chose qui est très important sur le plan physique, justement, pour expliquer le devenir.
Oui, mais de toute façon, à partir de Platon et dans tout le reste de la philosophie grecque, on a justement ce problème qui est fondé sur la distinction entre, d'une part, les êtres animés, qui ne sont en mouvement que parce qu'on leur donne le mouvement,
et
des êtres inanimés qui ne sont en mouvement que parce qu'on leur donne du mouvement, et des êtres animés qui ont un mouvement interne. Et donc, ces êtres qui ont un mouvement interne sont des êtres qui ont une âme.
Oui. Je m'aperçois.
Et donc, l'âme étant définie comme principe automoteur, c'est dans le Phèdre.
Oui, dans le Phèdre, oui. Mais c'est notable qu'il y a une postérité inédite du Timée aujourd'hui qu'on trouve dans deux ensembles philosophiques qui sont un peu en rapport l'un avec l'autre. D'une part, dans ce qu'on appelle l'écologie radicale, c'est-à-dire dans l'idée que la vie du monde, le monde, la totalité de la planète et de l'univers, en fin de compte, est quelque chose qui a ce caractère que tu viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'elle est animée d'un principe qui est autonome, et donc que le respect que nous devons à la nature, par exemple, peut trouver là un argument suffisant. Et d'autre part, à côté de cette écologie radicale, il y a énormément aussi de penseurs, je pense à l'école de Kyoto, les Japonais et tout, qui relisent le timé en rendant hommage précisément à l'idée que la séparation du monde intelligible et du monde matériel devrait nous induire, à, toujours dans une perspective écologique, à respecter la nature en fonction précisément d'une cause dont nous ignorons la transcendance et la subsistance. Alors, c'est sûr qu'il y a un mystère entourant toutes les cosmologies de l'origine. Tu as raison de le signaler. Le Timé est sans doute un des premiers témoins de ça, c'est important de le dire. Le temps passe, j'aimerais aborder avec toi ton travail de traducteur. Quelqu'un qui sent te connaître, ta passion philologique, qui n'aurait pas eu l'occasion de discuter avec toi, ton amour du grec et tout, et qui regarderait ton travail, dirait, mais comment comprendre un tel engagement, un tel investissement au service des textes? Alors, Platon presque au complet, Plotin presque au complet, et maintenant donc Proclus. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce qu'est pour toi, où sont tes convictions, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive une telle passion de traducteur?
Bon, c'est assez compliqué, et ça dépend de ma vie personnelle aussi. Dans la mesure où j'ai fait du grec et du latin depuis l'âge de 11 ans, ça m'a mis en contact avec les textes anciens. Et moi, je n'ai jamais considéré que l'Antiquité était morte. C'est-à-dire que pour moi, le latin et le grec ne sont pas des langues mortes. Elles sont des langues mortes au sens où on ne les parle plus actuellement. Mais je pense que le but d'un traducteur, c'est de faire parler des textes anciens. Et je pense que c'est... Encore une fois, je sais que c'est une formule un peu facile, mais je pense que pour comprendre l'avenir, il faut comprendre le passé. Je pense que les sociétés actuelles sont des sociétés qui vivent dans l'instant. Et on le voit très bien avec les ordinateurs. C'est encore plus évident parce que avec toute l'informatique, dans l'instant, on peut avoir toutes les informations qu'on veut, on peut avoir tout ce qu'on veut... Mais le problème, c'est que ça rétrécit notre champ de perception et notre champ de connaissance. Et je pense qu'il est très, très important de comprendre qu'on était fabriqué par des millénaires de pensée. Et non seulement qu'on a été fabriqué par des millénaires de pensée, mais que ces pensées qui sont obsolètes maintenant, bien évidemment comme celle de Platon ou de Plotin au sens strict du terme, c'est-à-dire que je pense que maintenant ce serait très difficile de faire croire à des gens qu'il existe une réalité véritable dans notre monde et qu'une image, etc., etc. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que nous, on est à un stade défini d'une certaine évolution de la pensée. Et que être capable de comprendre une pensée qui s'est développée il y a plusieurs millénaires relativise notre point de vue et donc nous permet non seulement de comprendre, de savoir d'où on vient, mais nous fait accepter que le changement est absolument essentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis toujours intéressé aux textes du passé. J'estime que j'ai un rôle de passeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout le monde de faire du grec et du latin. Et donc, il faut essayer de rendre ces textes anciens présents. Et une fois qu'on les a rendus présents, de faire comprendre l'histoire ne va pas s'arrêter avec nous, elle va continuer, comme elle a continué depuis 400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nous. Et donc, c'est la raison pour laquelle, la raison profonde, la raison philosophique qui fait que je me suis intéressé au passé, aux textes du passé, et parce que ces textes ne me paraissent pas des textes morts, c'est des textes toujours vivants, et qui peuvent nous donner nous permettre de nous comprendre nous-mêmes et surtout de comprendre jusqu'à un certain point, notre avenir. Cela dit, j'ai été très surpris parce que dans l'espace d'une vie, depuis 40 ans, mais toi, tu dois le savoir aussi, je pense que tu t'en es rendu compte, notre perception de textes comme Platon, surtout de textes platoniciens, la figure de Socrate aussi, a beaucoup évolué durant ces 40 ans. Je pense que si notre perception de ces textes anciens a évolué, c'est parce que il y a tout un pan de notre culture qui s'est effondré. C'est-à-dire que jusqu'à tout récemment, jusque dans les années 90-2000, on avait du prêt à penser. On avait des doctrines religieuses. Et on avait le marxisme, par exemple, qui permettait aux gens d'avoir des réponses à des questions qui ne se posaient même pas. Donc avec l'effondrement de du sentiment religieux et l'effondrement des grandes théories sociales sur lesquelles s'orientaient la plupart des hommes dans le monde, on est revenu non pas aux réponses, mais aux questions. Et quand on lit les premiers dialogues de Platon, les questions que Socrate pose à ses concitoyens dans la rue, ben, c'est des questions qu'on se pose soi-même. Oui. Il n'y a pas de réponse. Et c'est probablement la raison pour laquelle les dialogues de Platon sont tellement intéressants. Oui. C'est-à-dire qu'ils posent les questions qu'on est obligé de se poser maintenant, alors qu'avant, on ne se les posait peut-être pas ou on ne se les posait pas de façon aussi radicale.
Oui. Il y a une similitude à cet égard, je trouve, puis aussi une exigence qui est peut-être pas tout à fait la même, mais quand même assez semblable, entre le défi qui s'est posé à la Renaissance, quand l'humanisme de la Renaissance a retrouvé les textes grecs et latins et a décidé, on lit ça chez Guillaume Budet, on lit ça chez bien des auteurs, chez Erasme, bien entendu, de poursuivre l'étude des textes grecs et latins en argumentant que la conception du monde qui était dans les grands textes de Platon, puisque c'était leur auteur préféré, était une conception qui pouvait sauver précisément les apparences, le monde naturel, rendre raison du devenir et tout. Et donc, on pourrait dire qu'à la Renaissance, c'est en tout cas moi comme ça que je vois ça, les motifs qui nous portent aujourd'hui vers Platon étaient très différents de ceux qui les portaient eux. Mm-hmm. C'est-à-dire que eux avaient une approche principalement métaphysique, je dirais, de l'étude du grec. Il s'agissait de compenser le christianisme en l'augmentant, tandis que nous, c'est ce que tu viens de dire, nous sommes dans une situation plutôt d'érosion, de déshérence même par rapport au christianisme. Et nous voyons que les auteurs qui reviennent à la pensée grecque, je suis stupéfait à chaque fois que paraît un nouveau volume des cours de Michel Foucault au Collège de France, de voir qu'il a consacré les 10 dernières années de sa vie à étudier l'Alcibiade de Platon, le Politique de Platon, le Banquet de Platon, le Fête de Platon. Et pour ne rien dire de Jacques Derrida, pour ne rien dire de bien d'autres, et leur retour confirme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a comme un désir de reposer les questions, de les
rendre à neuf,
complètement à neuf.
Sans réponse préalable,
et peut-être surtout sur un horizon éthique et politique qui est très différent de l'horizon métaphysique de la Renaissance. Peut-être que ce serait ça la différence, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je pense que c'est exactement la différence par rapport à la Renaissance. C'est-à-dire que maintenant, ce qui intéresse et Platon, c'est effectivement des questions éthiques et politiques, même si elles se posent dans une culture radicalement différente. Je veux dire, la culture grecque n'a rien à voir avec la nôtre. Mais les questions éthiques et politiques qui se posent sont les mêmes.
Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui, par malheur, s'intéresserait aux Grecs? qu'est-ce que tu lui dirais? Ça va être difficile, vous ne trouverez pas de travail, renoncez tout de suite, ou vous avez une passion, il y a un objet, il faut y aller.
Tout dépend de la psychologie de la personne.
Oui.
Non, moi je pense que le grec et le latin, mais surtout le grec parce que j'en ai beaucoup fait, je pense que, bon, il y a la question de savoir pourquoi on fait du grec et pourquoi on fait du latin. Est-ce que c'est pour devenir un spécialiste, pour enseigner à l'université, etc. Dans ce cas, effectivement, c'est très difficile, mais ça n'est ni plus ni moins impossible que ce que tu as fait et ce que j'ai fait. Donc, on y arrive. Il suffit d'y mettre le temps et l'énergie, et puis on arrive à développer une passion et à enseigner. Cela dit, l'intérêt du grec et du latin, c'est aussi un intérêt littéraire, parce que pour moi, la littérature,
la philologie,
c'est très très important. Oui, pas seulement la philologie, mais la beauté des textes. C'est quand même très très important. Je veux dire, traduire Le Banquet et Le Phèdre, c'est quelque chose de très émouvant et de très très intéressant. Par ailleurs, je pense que le grec et le latin, et la traduction en général, mais le grec et le latin en particulier, parce que nos langues viennent de là, ça nous permet de beaucoup mieux comprendre et de beaucoup mieux maîtriser la langue qui est la nôtre. Une traduction, c'est quelque chose, et tu le sais très bien, de tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on doit comprendre la langue que l'on traduit, mais ça, ce n'est pas suffisant. Parce que la langue que l'on traduit, c'est une langue où il y a beaucoup d'ambiguïté, c'est une langue qui est différente de la nôtre, et on ne peut pas coller sur une langue une traduction. Si on pouvait le faire, des fois Google ou...
Oui, le ferait pour nous.
Le ferait pour nous en demandant des milliards de dollars. Donc,
oui.
Ça n'est pas possible. Donc la première chose, c'est de comprendre la langue ancienne. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que la structure de ces langues, la structure de nos langues dépend de cette structure. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans le métier de traducteur, c'est qu'une fois qu'on croit comprendre, parce que tu sais très bien comme moi, tu reviens une semaine après sur un passage et tu as tendance à le traduire un peu différemment. Bon, pas du tout parce que la traduction, la première était mauvaise, mais parce que la deuxième nous paraît plus. Donc l'idée, c'est de comprendre la langue ancienne et c'est, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de la faire comprendre au lecteur moderne. Parce qu'on traduit toujours pour quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on devient vraiment, jusqu'à un certain point, un auteur littéraire. Parce qu'il faut toujours se demander qu'est-ce que va comprendre mon lecteur actuel. Et à ce moment-là, ça implique de faire très très attention aux termes et au style. Et jusqu'à un certain point, je trouve que le travail d'un traducteur, c'est comme le travail d'un auteur littéraire.
Oui.
Donc on est toujours dépendant de sa source, à la différence d'un auteur littéraire, mais on crée quelque chose, et surtout c'est un objet de communication.
Oui.
Et je pense que si nos traductions chez Garnier Flammarion ont aussi bien marché, c'est que pour une fois, notre but, c'était le lecteur. C'est de vraiment faire passer le texte ancien chez un lecteur actuel sans qu'il ait besoin de faire toute une démarche philologique qui, moi, me paraît essentielle parce que je suis un philologue, mais qui, dans beaucoup de cas, et je le vois chez mes collègues, aboutit à une espèce de scepticisme. Donc nous, on prend des décisions et on essaie de faire partager ce qu'on comprend par les lecteurs. Et je pense que c'est ça la différence essentielle. C'est-à-dire qu'on ne reste pas entre nous, le petit groupe de gens qui connaissent...
Non, il y a une confiance au traducteur qui s'est installée. Puis je pense que tout ton projet de traduction de Platon a reçu un accueil absolument enthousiaste. Et c'est pas seulement... Bon, il y a la qualité de la traduction, il y a du scrupule philologique, tout ça est là. Mais il y a aussi, parce que tu es quand même un homme de ta génération, c'est-à-dire, tu l'as dit au début, un homme sensible à l'histoire, au contexte culturel. Mmh. Et moi, je pense à ton édition du Banquet. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent ici, mais Luc a fait une introduction au banquet qui est absolument bouleversante. Il a évoqué tout le contexte culturel du banquet, et c'est très, très important. Et la même chose pour tout le reste. Donc, on a un avantage au Québec, on pourrait dire ça, et je pense que c'est pour ça qu'on est nombreux ici à te rendre hommage, pas seulement ici ceux qui sont là, mais ceux qui te lisent tous les jours. C'est que à la faveur de la redéfinition des devis des cours des collèges, des cégeps, le premier cours comporte une ouverture nécessaire, obligatoire, sur la pensée grecque, l'avènement de la philosophie et la lecture, donc, d'un dialogue de Platon. Et cela n'aurait pas été possible si tes traductions n'avaient pas été disponibles, ça va de soi. Il y a donc un rapport immédiat qui s'est créé entre tes compatriotes québécois, les jeunes dans les collèges et tout, qui te lisent. Et moi, je le sais parce que, bon, tu m'as fait l'honneur, je l'ai répété tout à l'heure, de m'intégrer comme Louis-André dans cette collection-là. Je sais que ces textes sont lus, discutés, vraiment, qui a apporté une contribution, en tout cas majeure, à l'édifice de la culture générale au Québec. Et j'espère que ça ne se perdra jamais. Je sais que on peut toujours discuter sur est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt lire tel auteur que Platon et tout, mais le caractère fondateur de Platon dans la culture occidentale est quelque chose qui ne peut pas, puis je pense bien sûr que c'est ta conviction, être remis en question. L'heure est malheureusement écoulée. On n'a pas abordé toutes les questions qu'on avait préparées pour vous. C'était prévisible. Mais je pense que ça serait intéressant, si vous le souhaitez, il y a des micros qui sont là. Si vous voulez poser des questions à Luc, c'est le moment de le faire. Il va vous répondre. On a une quinzaine de minutes pour ça. Oui, monsieur, allez-y.
Oui, alors, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bon, alors, tantôt, dans votre discussion, vous avez fait mon nom est Jean Legault, je suis un ancien professeur en sciences comptables à l'UQAM. Alors, tantôt, vous avez fait, mais un ancien étudiant aussi en philosophie, en même temps que vous, au collège. Vous avez fait tantôt une relation entre Platon et la cosmologie contemporaine antique, et la cosmologie contemporaine, vous avez fait allusion au christianisme. Alors, la question que je me pose, que je vous posais, c'est la suivante. Dans plusieurs pays de l'Orient, ainsi qu'en Afrique, il y a les croyances musulmanes, la croyance chrétienne, il y a aussi la croyance animiste. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la croyance animiste et le sujet d'aujourd'hui?
La question est vraiment très intéressante. Et donc, il n'y a certainement pas de lien historique. Ça, c'est évident. Tout simplement parce que les Athènes, à l'époque, étaient très isolées et qu'il n'y avait pas... On ne peut pas définir les liens historiques entre la Grèce et la plupart des autres régions du monde, sauf le Moyen-Orient, bien évidemment, qui était juste à côté, il y avait des marchands, l'Égypte, mais le nord de l'Égypte, et c'est à peu près tout. Peut-être un peu le Maghreb, parce que la Sicile était tout près de la Tunisie, et tout près de la Tunisie, ça n'a pas changé.
Elle l'est toujours.
Oui, c'est ça. Mais la question est très intéressante, surtout pour quand on arrive à Platon. Donc, chez Platon, le monde est un vivant. Le monde est un vivant et est un dieu. Les hommes sont des espèces de divinités secondaires. Mais ce qui est intéressant, le monde est un... est un animal, donc, et donc le mouvement des planètes explique le mouvement du monde, et on retrouve dans l'être humain une âme qui est du même type que l'âme du monde, et ça va beaucoup plus loin, et justement je reviens à ce que tu disais sur l'écologie, Georges, les animaux sont des êtres vivants qui ont déchu. Et ça, ça va jusqu'aux animaux qui vivent dans la mer. Donc, il y a tout un continuum de la vie qui va du monde, qui passe par l'homme, qui va vers les animaux et qui descend vraiment très, très bas. Mais chez Platon, c'est encore plus intéressant parce que chez Platon, même les êtres inanimés sont affectés d'une espèce d'âme qui fait que eux aussi, ces objets inanimés, participent d'une certaine façon à la vie, parce que l'âme, c'est la définition de la vie. Donc, effectivement, on se retrouve chez Platon, et surtout chez Platon, dans une perspective qui est très proche de celle de l'animisme.
Une autre question?
Une espèce d'âme totale. Et encore une fois, je reviens à ce que tu disais, ça implique un respect très très fort à l'égard des animaux et même à l'égard des objets inanimés. Précisément parce que tout participe de cette âme.
Oui. Quelqu'un d'autre. Allez-y, monsieur.
Bonjour, mon nom est Sam Tota. Je suis très content de vous entendre. Un grand remerciement. Ma question est sur la définition du rien. Au début, vous avez mentionné rien, donc on ne pouvait pas démontrer grand-chose. Est-ce que le rien inclut Dieu? C'est la première partie de ma question. Le second, c'est comme philosophe, Spinoza a défini qu'il y avait un Dieu à sa façon. Et pour vous, pour continuer ce travail-là, pour le reprendre, est-ce qu'il faut être croyant ou bien non-croyant?
Ben, je ne sais pas s'il faut être croyant ou non-croyant, mais la notion de divinité dans le platonisme, c'est une notion très complexe. Pour les religions monothéistes, il n'y a qu'un Dieu qui est un être tout-puissant et dont tout vient. Dans le monde du platonisme, la divinité n'a pas le premier rang. Ce qui a le premier rang, c'est la réalité intelligible. Le Dieu est pourvu d'une âme et se situe à un rang secondaire par rapport à la réalité intelligible. Et la divinité, c'est ce qu'il y a de plus parfait dans le domaine de la vie et donc dans le domaine de l'âme. Mais, comme je vous l'ai dit, cette divinité est secondaire par rapport à la réalité véritable qui est l'intelligible et se heurte toujours à la matière. Et donc, on se trouve dans une notion de la divinité qui est très différente de celle des religions monothéistes. Premièrement, parce qu'il y a une pluralité de divinités. Deuxièmement, parce que cette divinité n'est pas toute puissante. Et troisièmement, parce que dans le monde de Platon et dans le monde grec, l'homme n'est pas radicalement séparé de la divinité. Il y a l'homme est une espèce de divinité au rabais. Et donc, on se trouve dans un monde vraiment très, très différent. Je ne sais pas si ça répond à vos questions.
Le non-être.
Le non-être, c'est un problème vraiment très, très redoutable dans le platonisme. Parce que chez Platon, le non-être absolu n'existe pas. En revanche, on se retrouve avec une... Justement, je reviens aux sophistes et aux timins, on se trouve avec une définition du non-être très différente. C'est-à-dire que pour Platon, le non-être, ça n'est pas ce qui n'existe absolument pas, c'est ce qui est différent. Et c'est la différence. Et donc, on a une métaphysique du non-être qu'on retrouve dans le sophiste de Platon, et parce que le non-être est absolument essentiel dans le cadre d'une métaphysique platonicienne, dans la mesure où chaque réalité, que ce soit la réalité véritable, les formes ou la réalité qui nous entoure, ne peut se définir qu'en fonction de son identité, elle est ce qu'elle est, mais cette identité ne se définit elle-même qu'en fonction de tout ce qu'elle n'est pas. Donc le non-être est absolument, c'est un élément essentiel, aussi essentiel que l'être chez Platon. Mais ça n'est pas le non-être absolu. Vous voyez ce que je dis. Et donc il se pose d'autres problèmes aussi avec la matière, mais ça, je n'ai pas le temps d'en parler ici. Mais on a chez Platon une définition du non-être vraiment, moi, que je trouve très originale et très intéressante.
On va aller vers madame à droite.
Bonjour. Merci, M. Brisson, pour ces entretiens. J'aurais deux questions rapides par rapport au sujet principal de votre, dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que vous croyez pas qu'il y a une différence essentielle entre le modèle grec de la cosmogonie, qui, bon, Platon, Hésiode, tout ça, on a toujours affaire à des agents anthropomorphes, par contraste avec la mécanique impersonnelle et aveugle de des cosmologies modernes. Je sais que votre comparaison reposait sur des critères formels, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a affaire à des modèles, modèles basés sur des actions, mais bon, est-ce que cette différence au sein du modèle n'est pas suffisamment importante pour justifier qu'il s'agit en fait de deux choses très très différentes? Donc ça sera ma première question, et la deuxième, un peu plus compliquée peut-être. Vous avez dit donc au début que la cosmologie était une explication du tout, donc une sorte de pantologie en quelque sorte. C'est effectivement le cas chez Platon, dont la structure de l'univers va jusqu'à expliquer les rouages internes de l'âme et tout ça. Par contre, je vous objecterais que dans le cas de la physique moderne, on a affaire à deux théories qui sont pas, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas été unifiées, c'est-à-dire qu'on a une théorie pour le macroscopique, voire l'astronomique, et une pour l'infiniment petit. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais un physicien qui prétendrait expliquer le comportement d'un individu, par exemple. Donc, je verrais là une autre différence essentielle entre les... voilà. Mais mes études en physique sont loin, donc c'est peut-être naïf un peu comme question.
Oui. Donc, on a deux questions, une sur l'anthropomorphisme et puis l'autre sur la différence des
physiciens. Non, la question est... Je pensais avoir répondu plus clairement à ces deux questions, mais c'est une question essentielle. Bon, premièrement, la comparaison qu'on a voulu faire entre les cosmologies anciennes et les cosmologies modernes, c'est pas une comparaison de contenu. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Platon est dépendant des théogonies qui l'ont précédé. Et donc, il fait intervenir des figures mythologiques, le démiurge, l'âme du monde, et la matière jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est de la mythologie pure. Et donc, on ne retrouve pas ça dans nos modèles contemporains. Les modèles contemporains, eux, ils se sont débarrassés complètement de tous les éléments mythologiques, et ils se fondent sur des axiomes purement géométriques. Ça n'est que ça. Et donc, la comparaison qu'on essayait de faire porte sur deux points, c'est-à-dire que dans les deux cas, on doit parler de l'origine. Et l'origine n'est pas observable, et on n'arrive vraiment pas, même avec les instruments les plus perfectionnés, à vérifier que le modèle correspond à cela. Donc, et les deux modèles sont fondés sur des axiomes qui sont des propositions indémontrables. C'est tout simplement ce qu'on voulait dire. Et donc, on voulait choquer un peu, mais je pense que c'est quelque chose qui est sain de choquer. C'est-à-dire que dans ce qu'on considère comme de plus développé scientifiquement, et donc on le voit avec un instrument comme l'accélérateur de particules au CERN, qui, encore une fois, je le répète, qui coûte 12 milliards de dollars, même là, cet aspect mythologique, cet aspect mythique demeure. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi, mais l'être humain a absolument besoin de se poser des questions sur l'origine. Et ces questions, il est obligé de se les poser, même s'il sait qu'on n'arrivera jamais à un discours vrai. C'est toujours un discours qui n'est pas fou, mais pas vrai, qui est un discours vraisemblable. Ça, c'est la première chose.
La deuxième question, c'est très rapidement, si vous pouvez lui répondre sur la question de l'irréconciliabilité des deux.
Oui, et ça effectivement, on, dans notre livre « Inventer l'univers », on le dit, c'est un problème. Mais je pense que vous posez peut-être pas très bien la question, mais j'aimerais beaucoup discuter avec vous plus longuement. C'est tout à fait vrai qu'on a deux systèmes d'explication qui ne colle pas. C'est-à-dire que vous avez une explication
macrophysique,
c'est-à-dire l'astronomie, des choses comme ça, puis vous avez la physique des particules. Mais justement, ce que des théories comme des modèles comme le Big Bang essaient de faire, c'est une espèce d'unification des deux. Et nous, ça nous paraît très intéressant aussi, parce que, comme vous le dites, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, essayer de faire coïncider les deux, je pense que jusqu'ici, on n'y est pas parvenu. On ne voit pas beaucoup de difficultés à y parvenir.
On va donner la dernière question à M. Corbeil.
Oui, Normand Corbeil, département de philo du Cégep du Vieux-Montréal. Très content aussi de vous savoir ici, très fier de vous. Moi, ma question, je ne sais pas si c'est une grosse question ou une demande d'impression, c'est que nous, quand nous enseignons la philosophie, enfin mes collègues pourront en témoigner, nous sommes un peu frappés par le fait que derrière, par exemple, l'allégorie de la caverne ou derrière la République, enfin derrière toute l'œuvre de Platon, il y a un souci pour la mathématique. Il y a comme une, et vous avez parlé tout à l'heure du démiurge comme, une première entreprise pour essayer de faire passer la mathématisation du monde dans le réel. Ce qui nous frappe, c'est que, et ça frappe un peu les élèves aussi, c'est que donc chez Platon, il y a ce souci mathématique, spéculatif sur le monde. Et aujourd'hui, nous sommes 2500 ans plus tard, nous avons vu ce que cette mathématisation à travers la technologie a fait avec le monde. C'est-à-dire que présentement, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, ce serait un peu drôle d'essayer de sérieusement faire croire à nos élèves qu'il y a ce deuxième monde. Pourtant, il y a toujours place pour l'idéalisation, je pense, en science aujourd'hui. Ma question, au fond, comme je vous le disais, c'est un peu une grosse question, et c'est peut-être de vous demander un peu votre impression. Est-ce qu'il vous arrive de penser aujourd'hui, si Platon revenait, s'il voyait cette mathématisation de l'univers qui, à travers la technologie, à travers l'informatique, nous donne donc ce coup d'œil très généralement matérialiste sur le monde. Est-ce que Platon, lui, aurait besoin d'inventer ce second monde? Est-ce qu'il serait aussi... est-ce que c'est le versant religieux chez lui qui donnerait lieu à ce second monde? Ou si peut-être il serait devenu matérialiste avec 2500 ans plus tard?
Oui. Ça... Moi, je ne poserai pas le problème comme vous.
Bon.
Je pense que s'il y a un deuxième monde chez Platon, c'est pour des raisons éthiques et politiques. Platon fait l'hypothèse d'un monde de réalité véritable pour des raisons éthiques et politiques au point de départ. C'est-à-dire que Platon vit, enfin c'est historique, mais... dans une cité, Athènes, qui est déchirée par la guerre civile et où il y a un conflit des valeurs. Alors, Platon essaie de penser à des valeurs qui sont universelles et indiscutables. Mais pour arriver à ces valeurs universelles et indiscutables, il est obligé de faire l'hypothèse d'une épistémologie particulière, c'est-à-dire que vous avez vos sens qui vous permettent de percevoir les choses qui nous entourent, et vous devez avoir un intellect qui vous permet de saisir ces valeurs qui sont des réalités immuables et universelles et qu'on ne retrouve pas dans notre monde. À partir de ce moment-là, si vous voulez éviter ces réalités véritables ne soient qu'une espèce de... je sais pas moi, de parade ou de cache-sexe, vous êtes obligé d'expliquer comment ces réalités véritables peuvent avoir une relation avec notre monde. notre monde sensible. Et la façon de percevoir cette relation chez Platon doit passer par les mathématiques. C'est-à-dire que le monde qui nous entoure est extrêmement complexe et la seule façon de lui donner une certaine régularité, une certaine permanence, c'est d'en parler non pas à l'aide du langage ordinaire, mais à l'aide des mathématiques. Et ce que Platon essaie de faire, c'est d'expliquer comment les choses qui nous entourent ne viennent que de quatre éléments, lesquels sont assimilés à des polyèdres réguliers. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une description purement mathématique du monde qui nous entoure. Et en plus, le cours des astres lui-même est structuré en fonction de rapports mathématiques. Donc, l'ensemble de la réalité n'a de régularité et de permanence que par l'intermédiaire des mathématiques, qui, à l'époque, étaient considérées comme la science la plus rigoureuse qui existe. Donc, je pense que chez Platon, il n'y a pas cette opposition entre la mathématique liée à la science et à la technique et l'éthique. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Donc, il n'y a pas cette opposition. Cette opposition n'apparaît que dans notre monde et apparaît surtout au niveau de la technique, mais pas au niveau de la science. Et je pense que chez Platon, on n'arrive pas à cette opposition radicale entre science et éthique, science et politique, mathématiques et valeurs. Je pense que les deux convergent vers le même but, c'est-à-dire essayer de rendre compte du monde qui nous entoure et essayer d'expliquer pourquoi on peut en parler, ce n'est pas du tout évident, pourquoi on peut le penser, pourquoi on peut y agir sans trop de difficultés. C'est la réponse que je ferai. C'est peut-être que ce n'est pas une réponse qui vous satisfait, mais je pense que cette opposition entre mathématiques et valeurs, chez Platon, n'existe pas. C'est dans notre monde que ça existe.
On va devoir s'arrêter là-dessus parce que notre temps dans cette salle est écoulé. Je veux d'abord te remercier, Luc, vraiment du fond du cœur. Beaucoup un peu plaisir. Je veux remercier aussi, bien sûr, nos hôtes, Guy Bertiau, mais la Grande Bibliothèque qui font en quelque sorte une riche ouverture vers la discipline de la philosophie grecque. Je veux vous remercier, public, d'être si nombreux et attentifs. Et je veux vous dire que Luc va donner une conférence publique, je peux l'annoncer, au Centre d'études classiques, vendredi, à quelle heure? À 5h30. Alors, les coordonnées sont sans doute sur le site Internet du Centre d'études classiques de l'Université de Montréal. Donc, vous pourrez l'écouter. Le sujet sera... Luc, sur quoi tu vas parler?
Sur le mythe.
Sur le mythe, bon. Alors, donc, on sera très heureux de le retrouver là. Alors, c'est une conférence publique, donc vous êtes tous cordialement invités. Alors, encore une fois, merci et... vraiment, je suis très, très heureux de cette rencontre.
Et à mon tour de te remercier, Georges, d'avoir accepté d'animer et d'avoir fait d'aussi brillante façon. Et Luc, merci encore.